Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission. Cette semaine, Coémergence s'intéresse aux millionnaires et aux milliardaires africains. Combien de millionnaires et de milliardaires africains recense-t-on à ce jour? Et surtout, dans quels pays africains compte-t-on le plus de fortunés? Un rapport très intéressant s'est intéressé à la question. Vous en saurez l'essentiel dans votre rubrique « Les échos de la semaine ». Et nous nous intéressons aussi aux obstacles du business sur le continent. Quels sont les freins au bon développement des activités économiques dans les pays du continent? Ce sera le principal sujet de cette émission. Nous en parlons dans votre rubrique Zoom Express et avec notre invité. Vous aurez les détails dans quelques instants. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, on s'intéresse aux millionnaires et aux milliardaires africains. Selon l'étude Africa Wealth Report 2023, publiée par le cabinet britannique Henley & Partners, l'Afrique compte au moins 138 000 millionnaires. Et bien évidemment, on parle de millionnaires en dollars. Pour ce qui est des centimillionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 100 millions de dollars, ils sont au nombre de 328 à travers le continent, alors que le nombre de milliardaires africains en dollars se limite à seulement 23. Ces happy few milliardaires, si on ose vraiment les appeler ainsi, se trouvent en majorité en Égypte où ils sont 8 individus possédant une fortune supérieure ou égale à 1 milliard de dollars. Viennent ensuite l'Afrique du Sud avec 5 milliardaires et le Nigeria, 4 milliardaires, ainsi que le Maroc qui compte aussi 4 milliardaires. S'agissant des millionnaires en dollars, le continent en compte, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques 138 000, avec 37 800 personnes possédant une fortune estimée à au moins 1 million de dollars. L'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de millionnaires. Devant l'Égypte, qui en compte plus de 16 100, le Nigeria, 9 800, le Kenya 7 500 et le Maroc qui compte 5 800 millionnaires en dollars. Le Maroc donc qui se place à la 5e place continentale. Le cabinet Henley & Partners s'attend par ailleurs à ce que la population des personnes fortunées augmente de 42% sur le continent au cours des 10 prochaines années pour atteindre ainsi 195 000 personnes.
Zoom Express.
Je vous le disais en titre, cette semaine nous parlons des réalités du business en Afrique. Est-il vraiment facile de faire des affaires sur le continent? Ou plutôt, quels sont les obstacles qu'il faut prévoir et comment les contourner? Nous donnons la parole à Zakaria Fahim, qui est le président du cabinet de conseil d'expertise BDO Maroc. Bonjour à vous, Zakaria Fahim. Alors, pas mal de choses qu'on peut évoquer quand on lance cette thématique. Mais avant tout, quels sont les retours que vous avez des entreprises marocaines installées sur le continent lorsqu'elles vous parlent des réalités du business en Afrique?
Réalité sur le retour du business en Afrique. En général, les entreprises marocaines rapportent des défis importants, tels que la réglementation changeante, une concurrence croissante, une infrastructure limitée en Afrique, mais aussi des opportunités telles que la croissance démographique et la demande accrue sur les produits et services. Donc, les entreprises qui réussissent souvent sont celles qui adoptent des stratégies locales, établissent des partenariats solides, et notamment des partenariats des JV, et ont compris qu'il faut intégrer la dimension culturelle locale. C'est la clé pour la réussite.
Ce sont là des éléments intéressants à prendre en considération. Alors, Dans ce contexte, qu'est-ce qui, selon vous, constitue le principal obstacle pour mener à bien son business sur le continent?
Les obstacles, il y en a pas mal. Hein. Pour développer le business sur le continent, nos entreprises doivent faire face à une des grandes gangrènes sur le continent, c'est l'instabilité politique, avec toute la problématique de gouvernance, des infrastructures souvent limitées, des réseaux de transport et d'énergie qui ne sont pas on va dire de classe mondiale ou suffisants pour pouvoir travailler sereinement, et bien sûr, malheureusement, la bureaucratie et la corruption. Donc ces difficultés pour accéder au financement aussi, couplées à une connaissance parfois limitée du marché, c'est pour ça qu'on incite les entreprises à développer ce qu'on fait dans d'autres pays, les fameux VIE, c'est accompagner des jeunes qui veulent, dans le cadre de leurs premières études, faire des études de marché, donc avec une sorte de contrat à durée déterminée où le jeune finit son contrat localement. Et BDO, avec l'Afriqueuse, on travaille avec Hub Africa sur un certificat sur l'intelligence économique au service des PME, parce que je pense que c'est quand même important. Et un autre insuffisant, c'est souvent la main-d'œuvre qualifiée, donc les RH qui restent l'enfant pauvre aujourd'hui, le gros sujet. C'est pour ça que souvent on accompagne avec des ressources locales, mais celles qui ont réussi à mixer et à avoir rapidement des montées en compétences des ressources locales pour optimiser l'investissement.
Zakaria Fahim, je rappelle que vous êtes le président de BDO Maroc. Alors, une dernière question. Que conseillez-vous aux entreprises marocaines qui souhaitent améliorer leur manière d'aborder les marchés africains ou tout simplement qui souhaitent s'engager sur ces marchés d'Afrique subsaharienne?
Comme on dit, avant de se déplacer, il faut faire une analyse approfondie du marché, bien se préparer. On n'y va pas en touriste. La dimension culturelle reste importante pour bien comprendre les opportunités, les défis du marché local et bien sûr comment fonctionne le client sur place. Donc on a la chance d'avoir nos banques qui ont cette granularité, ce retour, et sont souvent très bien placées pour nous donner le bon retour. Donc il ne faut pas ne pas les utiliser. Il y a aussi nos ambassades avec pendant commercial qui peut être intéressant, et ne pas avoir peur de passer d'abord par de la vente avant de s'implémenter, avoir des partenaires locaux, travailler avec des entreprises pour un peu tâter le terrain, le comprendre, donc le challenger, donc ne pas y aller d'un seul coup, ne pas avoir peur de participer à l'investissement une fois qu'on a bien compris le marché, pour pouvoir effectivement en tirer les bénéfices, et bien sûr sensibiliser aux pratiques éthiques, donc ne pas avoir peur de s'engager à adopter des pratiques commerciales éthiques pour pouvoir effectivement avoir une réputation positive sur le marché et être capable de drainer des clients de classe mondiale, favoriser la formation et le développement des employés. Donc le capital humain reste la clé, donc là aussi ne pas avoir peur d'accompagner la prise en main du digital dans nos entreprises. Et avec l'éloignement, donc c'est très important pour s'adapter. Et bien sûr, avoir un conseil, son expert comptable, son conseil sur place, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, et c'est vraiment important pour pouvoir effectivement s'occuper de son métier et avoir ce support du cabinet pour l'analyse des risques, des opportunités. Le plus important, c'est que ce continent, si on veut participer au Made in Africa, il faut que le Made in Morocco se valorise, et surtout on doit chasser en meute dans le bon sens du terme. Les TPE, les PME doivent créer de la synergie, de la complémentarité pour être capable de concurrencer les Européens. Donc voilà ce que je pouvais dire en substance. C'est le marché d'avenir, à nous de se l'approprier, parce que l'Afrique, on est chez nous, et si on travaille en bonne intelligence, on est capable de faire de belles choses avec nos confrères et nos partenaires subsahariens.
Des conseils importants qu'il faudrait certainement mettre en œuvre. Merci à vous, Zakaria Fahim. Je rappelle que vous êtes le président de BDO Maroc, un cabinet donc spécialisé dans le conseil et l'expertise comptable.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Idriss Lingé. Nous avons le plaisir de le recevoir encore une fois et il est un habitué de l'émission. Le rédacteur en chef donc, de l'agence panafricaine ECOFIN a rendez-vous avec nous chaque mois pour donner son point de vue sur l'évolution du continent et nous restons sur la thématique avec laquelle nous parlions tout à l'heure avec Zakaria Fahim. Vous avez bien compris qu'il s'agit des réalités du business sur le continent. Alors Idriss Lingé, tout d'abord, bonjour à vous et bienvenue dans Coémergence.
Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio.
C'est un plaisir de vous retrouver, Idriss Lingé. Alors, première question Idriss, est-il vraiment facile de faire du business sur le continent?
Alors déjà, pour te répondre Omar, je dirais qu'il n'est facile de faire les affaires nulle part dans le monde. Chaque pays, chaque région comporte un certain nombre de difficultés. Par exemple, ce serait très compliqué pour un ressortissant du Kenya d'aller faire des affaires, disons, en Algérie, ou alors pour un ressortissant du Maroc de parvenir à faire efficacement des affaires, disons, au Japon. Voilà. Donc, il y a toujours un certain nombre de difficultés. Mais maintenant, évidemment, en Afrique, si on veut parler de l'Afrique subsaharienne, puisqu'il s'agit de ça, il y a peut-être un degré de difficultés supplémentaires qui peut être lié au fait qu'on ne comprend pas toujours des codes parce que malheureusement, pour des raisons historiques et pour plusieurs raisons, la région n'est pas parvenue à se mettre au benchmark des niveaux de capacité d'accueil des investisseurs qu'il faut, notamment en termes d'infrastructure et de bien d'autres domaines. Donc oui, il y a une plus grande difficulté à réaliser des affaires en Afrique, mais je voudrais dire que la difficulté qui peut être ressentie est une question de degré et que pareillement, il serait difficile pour certaines personnes, même sortant des pays très structurés, de faire des affaires dans d'autres régions, parce que c'est comme ça, l'absence de connaissances et les difficultés contextuelles.
Des éléments importants donc qu'il faut prendre en considération. Dans ce contexte, Idriss, quelles sont selon vous les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont le plus souvent confrontés dans nos pays?
J'ai quand même envie de dire que il existe plusieurs ordres de difficultés à investir en Afrique. La première, c'est déjà que l'Afrique subsaharienne n'est pas un marché homogène. C'est pas un espace d'investissement où on va retrouver les mêmes régulations, même à l'intérieur des sous-régions qui sont censées partager certaines régulations communes comme la CEDEAO, comme la communauté est-africaine ou alors encore l'UMOA et la CEMAC, vous retrouvez des disparités dans les régulations au sein de chaque pays dépendamment du secteur. Le marché du travail n'est pas homogène, le marché de l'immobilier n'est pas homogène, les standards et les normes ne sont pas toujours homogènes. Donc ça peut être une première difficulté. La région impose d'aller sur des marchés fragmentés. Je prends le cas par exemple d'un groupe bancaire comme Attijari Wafa Bank, sans publicité, ou même encore Bank of Africa ou BCP, qui sont des acteurs majeurs de la banque en Afrique de l'Ouest Urmois, bah, ils sont obligés de se plier à une régulation sous-régionale sous le coupe de la BCAO, mais aussi des régulations beaucoup plus spécifiques qui concernent chaque pays. Ça rend les coûts d'investissement beaucoup plus élevés, ça rend la gestion beaucoup plus complexe. Ça aurait été plus facile si l'Urmois constituait un marché unique. On aurait mis une filiale avec des branches dans différents pays, avec un modèle de gestion qui aurait été plus économique. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est que l'Afrique, malheureusement, subsaharienne, n'est pas encore parvenue à résorber le défi énergétique. Il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'énergie. Et malheureusement, sur ce terrain, nous avons encore d'importants déficits. Et bien que les marchés soient en train de se construire, bien que on assiste à des unions, on a l'union monétaire, on a une libre mobilité dans la CEDEAO, qui est un espace de près de 500 millions de personnes. Malheureusement, la mobilité n'est pas toujours facile. Vous ne pouvez jamais savoir avec précision si vous prendrez tous les jours un bus qui part de Abidjan pour Lagos ou si vous prenez un bus qui part de Lomé pour le Burkina Faso, pour Ouagadougou. Vous êtes obligé de prendre l'avion et les tarifs sont simplement exorbitants. Donc oui, je pense qu'il y a des difficultés de régulation homogène, des difficultés de mobilité, des difficultés en termes d'énergie et aussi un peu peut-être des difficultés en termes de compétences. Les pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas parvenus à véritablement construire des systèmes de production de compétences alignés sur les besoins actuels de l'économie. Et donc tout ça peut constituer un ensemble de défis qu'il faudrait surmonter.
Alors Idriss, c'est intéressant d'avoir tous ces développements. Dans ce sens, selon vous, quelles sont les mesures urgentes qui s'imposent dans les économies africaines pour améliorer le business, pour faciliter la vie aux entreprises?
Les mesures urgentes, je ne pense pas. Mais il faut plutôt se demander quels sont les déclenchements qu'il faut démarrer aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de déclenchements. Nous notons par exemple qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est en train vraiment de mettre en place des réformes qui permettent qu'on puisse attirer davantage d'investisseurs. Mais la Côte d'Ivoire à elle seule ne suffirait pas, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un petit marché de 25 millions d'habitants. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a réussi à s'imposer comme un hub d'exportation au niveau de la zone UEMOA. Et donc peut-être qu'il faudrait penser à faire de la Côte d'Ivoire véritablement ce hub-là et partir de là comme point pivot des investissements dans la sous-région UEMOA. Mais en termes de mesures urgentes, c'est extrêmement difficile de dire, Omar, parce que dans des pays, par exemple, comme le Nigeria, la moindre réforme rentre dans des débats politiciens complexes et on est parti pour 5-6 ans, on n'a pas avancé. Regardez simplement le projet de monnaie commune de l'ECO. Il a été constamment torpillé par des pays comme le Nigeria parce que le pays ne parvenait pas à atteindre les normes que la sous-région s'est donnée en termes de normes de base pour avoir une monnaie commune. Donc, vous avez d'autres pays où on a d'autres problématiques, où on a des problèmes de sécurité. Et ce n'est pas des choses qu'on peut gérer urgentement. Comment on gère urgentement la question du Sahel? Comment on gère urgentement la question des Chebabs au niveau de la Somalie, du Soudan? Comment on gère ça urgentement au Congo? Regardez au Congo, ce pays qui pourrait devenir le poumon de toute l'Afrique. Le Congo a des terres cultivables qui ont la superficie de la Belgique. Mais regardez ce qui se passe dans ce pays. On ne peut pas régler ce genre de problème urgentement. Mais par contre, effectivement, il y a urgence à commencer à réfléchir sur cela. Parce que oui, vous posez un problème. Tout le monde sait que c'est difficile d'investir en Afrique. Mais non, si vous me demandiez en termes d'urgence, je dirais que des projets qui ont avancé, comme par exemple le réseau d'autoroutes entre le sud, enfin le milieu de l'Afrique, notamment à partir du Nigeria jusqu'au Maghreb, doit être renforcé, doit être construit. On doit pouvoir développer des centrales énergétiques qui électrisent ces zones-là et on sécurise l'endroit, on met des contingents militaires, ça créera de l'emploi, ça créera de l'opportunité. Mais c'est pas des choses qu'on décide facilement. Il faudrait que tous ces pays-là qui partagent finalement une grande zone de no man's land puissent se mettre ensemble, travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore un tout petit peu difficile. Donc je pense qu'il n'y a pas des mesures urgentes, mais il y a urgence à ce que les pays africains, dans le cadre de l'Union africaine, se mettent ensemble et se disent comment on fait pour pouvoir se développer de nous-mêmes.
Enfin, Idriss Lingé, une dernière question. Quel pays peut-on aujourd'hui citer en exemple en matière de facilitation du business? Parce qu'on avait à l'époque le doing business qui n'existe plus. Désormais, sur la base de vos observations, pour quelqu'un comme vous qui connaissez très bien le continent, quels pays peuvent être cités en exemple?
Alors, étonnamment, j'ai envie de dire qu'un pays qui, pour ma part, est un pays exemple, c'est le Bénin. Je pense que c'est pas parce que je vis dans ce pays, mais le président qui est en place, M. Patrice Talon, il a fait un incroyable travail de transformation. L'accès à l'énergie est une réalité alors que le pays ne dispose pas forcément de barrages. Le réseau routier s'est densifié et permet aujourd'hui de connecter facilement le Bénin, non seulement aux pays voisins, mais aussi à l'intérieur même du territoire. L'accès à l'Internet est totalement excellent. Je réussis à faire aujourd'hui des travaux avec une connexion en streaming, avec des réunions sur Washington, sur Paris, avec une connexion Internet de très très bonne qualité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et puis, il a un ambitieux programme de développement. Et on a digitalisé le processus de création des entreprises. Donc, je pense que ce pays peut devenir très facilement un hub. On crée une entreprise ici en moins de 48 heures. Et quand je dis 48 heures, je dis vraiment 48 heures. Et c'est absolument remarquable. Maintenant, le Bénin n'est pas malheureusement une économie forte, mais c'est une économie qui pourrait offrir une exposition au Nigeria qui est à moins d'une heure trente de route. Mais bon, ça c'est encore des choses qu'il faut travailler. Il faudrait que le gouvernement du Bénin s'accorde avec le gouvernement du Nigeria. Ce n'est pas toujours évident parce que les Nigériens sont quand même un peuple, enfin c'est quand même un pays un peu complexe. Maintenant, un autre exemple que nous pouvons avoir, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ont entrepris aussi de très grosses réformes qui attirent de nombreux capitaux. Ils sont en train de progresser et je pense en effet qu'il y a matière à scruter ces pays avec attention. Il y a un autre pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est la Guinée-Conakry. Un autre exemple de pays intéressant, mais qui peut-être pourrait être fermé pour les pays du Maghreb. C'est des pays comme le Kenya, parce qu'il y a une très forte concurrence anglo-saxonne, ou encore des pays comme la Tanzanie ou l'Ouganda, ou encore des pays comme la Namibie, qui ont des grandes ambitions en termes d'énergie verte. Donc, je pense que, voilà, quelques pays comme cela que je trouve... Et enfin, peut-être je parlerai du Togo. Le dirigeant actuel du Togo a vraiment transformé son pays. Il y a une grosse facilitation des affaires. Les processus sont beaucoup plus faciles à exercer là-bas. Les procédures sont claires pour les investisseurs. Donc voilà quelques pays en Afrique où, de mon point de vue, ce sont des exemples, même si les difficultés continuent de subsister. Mais c'est avec le travail, c'est avec la coopération qu'on va faire améliorer les choses.
Merci à vous, Idriss Lingé, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité économique et financière, Ecofine. Merci Idriss Lingé.
Merci Omar Baldé de m'avoir accueilli. Ainsi que l'agence Ecofine sur tes antennes. Je serai très content de vous retrouver pour un autre panorama sur l'Afrique. Au revoir et bien le bonjour à mes frères marocains.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituel. Bonne suite de programme sur Medium.